Info matin, Nicolas Legrand.
Un courrier commun des parlementaires calédoniens adressé à Emmanuel Macron. Ils alertent le président de la République sur les conséquences de la censure du gouvernement Barnier pour la Nouvelle-Calédonie. Et toujours cette question centrale, qui sera le prochain Premier ministre? Les consultations se poursuivent. Emmanuel Macron va d'ailleurs recevoir tous les partis de l'arc gouvernemental, c'est-à-dire sans la France Insoumise et le Rassemblement National la nuit prochaine. L'Europe se barricade après la chute de Bachar al-Assad en Syrie. À l'image de plusieurs pays européens, la France envisage de suspendre les demandes d'asile des Syriens. Le sport est sur le vent des globes. Charlie Dalin poursuit sa route en tête et se projette désormais dans le Pacifique après 29 jours de course. La météo en Nouvelle-Calédonie. Quelques formations nuageuses se développent sur la chaîne et aux Loyautés. Ailleurs, le temps est bien ensoleillé pour aujourd'hui. Quelques coups de tonnerre ne sont pas à exclure pour l'après-midi. Toutefois, sur le nord, les températures maximales sont élevées et au-dessus des normales, 30 à 32 degrés et localement 33 à 34 degrés sur la côte ouest.
Bienvenue dans l'Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
L'actualité calédonienne à la une.
Oui, avec les quatre parlementaires calédoniens qui écrivent donc au président de la République Emmanuel Macron, ainsi qu'au Premier ministre démissionnaire Michel Barnier, et il les alerte sur les conséquences de la censure pour la Nouvelle-Calédonie, Léana Colombo.
Oui, la censure récente et l'absence de loi de finances avant la fin de l'année placent notre collectivité dans une situation particulièrement critique, écrivent-ils. Ils estiment que les dispositions issues des discussions autour du projet de loi de finances 2025 constituaient une première réponse adaptée aux besoins urgents de la Calédonie, lourdement fragilisée par, je cite, une crise économique, sociale et politique sans précédent. Il demande donc à ce que ces mesures soient intégrées à la loi spéciale annoncée par Emmanuel Macron, qui doit être votée pour permettre le fonctionnement de l'État en l'absence de projet de budget. Selon les quatre parlementaires, une telle démarche constituerait un signal fort de solidarité nationale à l'égard de la Nouvelle-Calédonie et de la reconnaissance de ses défis particuliers. Les députés et sénateurs calédoniens estiment que la continuité de l'État et la responsabilité à l'égard de la population calédonienne en grand désarroi appellent une réponse adaptée à cette situation inédite. Ils concluent leur courrier en lançant un message au président de la République. Nous espérons que vous saurez entendre cet appel et agir pour préserver les intérêts des Calédoniens dans une période de grande incertitude.
Un courrier signé des députés Nicolas Metzdorf et Emmanuel Tchibaou et des sénateurs Georges Naturel et Robert Rowy adressé à Emmanuel Macron et au Premier ministre démissionnaire Michel Barnier. Une copie a également été envoyée à la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet et au président du Sénat Gérard Larcher. Sur le territoire, trois maisons ont été brûlées ce week-end à Touo, dans le cadre de violences entre des habitants des tribus de Tiwaka et de Kokangon, ainsi que des habitants et des militants de la CCAT. Des coups de feu ont été tirés, une voiture et un tracteur ont également été brûlés et trois personnes ont été blessées avant que les gendarmes mobiles n'interviennent pour disperser les militants de la CCAT qui avaient pris position aux abords du carrefour de la Konetiwaka. Et puis des tensions sont également signalées à Yaté où des affrontements ont eu lieu au sein de la tribu de Tuahuru. Des coups de feu ont été échangés le week-end dernier mais apparemment sans faire de blessés. Dans l'actualité de ce mardi matin également, cette information qui est tombée hier en fin de matinée, dans un communiqué, Prony Ressources annonce le redémarrage de ses activités sur le site de l'usine du Sud. Les explications de Lionel Sabot.
Après la remobilisation de l'ensemble des effectifs il y a quelques jours, Prony Ressources annonce la reprise de ses activités industrielles mais aussi minières. Une étape cruciale pour l'avenir de l'entreprise après 7 mois d'arrêt, peut-on lire dans le communiqué diffusé hier matin. Ce redémarrage entre plus globalement dans le processus de reprise de l'entreprise. En effet, Prony Ressources est actuellement, on le sait, en négociation avec une entreprise sud-africaine, un repreneur qui souhaite voir fonctionner l'ensemble du site avant d'aller plus loin dans les négociations. Il s'agit là d'une étape décisive pour l'avenir de notre entreprise, peut-on encore lire dans le communiqué. Depuis hier matin donc, l'ensemble des équipes est mobilisé pour assurer un redémarrage maîtrisé et sécurisé des opérations. Prony Ressources indique par ailleurs vouloir à terme retrouver la performance du premier trimestre 2024, à savoir atteindre une production de 3500 tonnes par mois. Prony Ressources indique toutefois dans son communiqué que, et je cite, l'arrêt des activités d'activité pendant 7 mois a entraîné une perte totale de revenus, mettant la trésorerie de l'entreprise dans une situation extrêmement fragile. Bien que le redémarrage soit une étape vitale, poursuit le communiqué, il ne garantit pas à lui seul la pérennité à long terme. Fin de citation. Le redémarrage des opérations, tant au niveau de l'usine qu'au niveau de la mine, prendra plusieurs jours. Un redémarrage qui est toujours, selon Prony Resources, un signal fort et qui va demander l'engagement de tous les employés du site afin que l'industriel puisse surmonter cette période critique. La performance collective et la solidarité seront les clés pour assurer l'avenir durable de l'entreprise, écrit Prony Resources pour conclure le communiqué.
Les précisions de Lionel Sabot. Dans l'actualité institutionnelle maintenant, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie réunit en séance publique ce matin à partir de 8h30. Les conseillers doivent examiner 3 projets de délibération et notamment celui qui déclare l'urgence climatique et environnementale en Nouvelle-Calédonie et qui définit la stratégie calédonienne du changement climatique. Ils doivent aussi créer un fonds de résilience calédonien du changement climatique. Ces 2 textes ont fait l'objet d'une demande d'inscription par priorité de la part du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Les élus qui doivent également approuver un avenant à la convention de financement européen qui concerne l'aide à la transition énergétique en Nouvelle-Calédonie. C'est pour la période 2021-2027 et autoriser le président du gouvernement à le signer.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Est-il utile, selon vous, de déclarer l'urgence climatique en Nouvelle-Calédonie ? Si cela vous semble utile, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier, maintenant, 65% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent ne pas être rassurés par l'annonce d'un calendrier de reprise des discussions pour la recherche d'un accord avant le 31 mars prochain. Ils sont donc 35% que cela rassure. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Vos rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu maintenant. Il y a une semaine, l'interdiction du port, du transport et de l'utilisation des armes à feu et de munitions sans motif légitime était levée après plus de 6 mois d'interdiction, liée évidemment au contexte insurrectionnel de mai. Toutefois, une limitation pour l'achat de munitions a été mise en place. Ces nouvelles mesures sont-elles de nature à satisfaire les chasseurs ? Comment ces derniers ont-ils vécu cette période un peu particulière ? Et comment les populations de cerfs notamment ont-elles évolué lors de ces 6 derniers mois ? Autant de questions que nous poserons tout à l'heure à Pascal Faure. Il est le directeur de la Fédération de la Faune et de la Chasse. Rendez-vous donc ce matin à 7h30 sur Radio Rythme Bleu. Et puis les vacances scolaires approchent à grands pas, et même puisqu'elles débutent ce vendredi 13. Alors quelles activités seront proposées ? Comment les camps de vacances vont s'organiser ? Nous ferons le point ce midi avec nos invités dans notre magazine citoyen. Nous recevrons Yolani Martin, chef de service à la direction de la culture, de la jeunesse et des sports à la province sud. Elle est chargée de l'opération Carrefour Vacances, ainsi que Marie-Annick Lasserre, présidente des scouts et guides de France de Nouvelle-Calédonie. Brieux-Pierre Large, le responsable administratif et financier de l'association Les Villages de Magenta, ainsi qu'un membre de la CAF. Une émission à retrouver à midi, juste après votre journal Infomag. En attendant, il est 6h passées de 39 minutes après la publicité, l'actualité en métropole et dans le monde. Et à Paris, Emmanuel Macron consulte toujours pour trouver le candidat idéal à Matignon.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Et vous, habitants du lagon, Speed Marine, c'est à Neuville, le magasin spécialisé pour votre bateau. Sécurité, confort, entretien, protection et une large gamme de qualité. Peinture, résine, accastillage, cordage, électricité, notre engagement, vous trouvez des solutions à tarif réduit. Chez Speed Marine, à Neuville-Plaisance, notre métier, la passion de notre lagon. Venez nous voir ou appelez-nous au 28 34 69.
Marlène Alma, Païta et Port-Plaisance, 3 boutiques pleines de cadeaux. La parfumerie, la maroquinerie, la lingerie, le textile, Marlène, le seul plaisir d'offrir.
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide-grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 au 174 rue Auguste Bénébig à Magenta. Entrée par le showroom Mazda.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
L'actualité à l'étranger pour commencer avec des milliers de proches de détenus amassés devant la prison de Saïdania, près de Damas. La chute du régime de Bachar al-Assad, c'est aussi la libération de milliers de prisonniers. Immédiatement, plusieurs pays européens se sont barricadés. L'Autriche d'abord, l'Allemagne ensuite, le Danemark, puis la Norvège et la Suède qui va aussi suspendre les entrées de réfugiés mais aussi bloquer les expulsions vers Damas. Mais alors, que va faire la France, Alexandre Chauveau ?
L'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vient de communiquer affirmant ce soir suivre attentivement la situation en Syrie. Comme toujours en cas de situation évolutive dans un pays de demandeurs d'asile, cela peut conduire à suspendre provisoirement certaines demandes émanant de ressortissants syriens, écrit l'organisme sous tutelle du ministre de l'Intérieur. 700 dossiers en cours d'étude pourraient donc être suspendus, et ce pour deux raisons. D'abord parce qu'avec la chute du régime de Bachar al-Assad, Paris pourrait considérer qu'il n'y a plus de raison d'accorder l'asile à des Syriens sur le territoire français, et d'autre part pour prévenir l'hypothèse d'un afflux de migrants qui pourrait contenir de potentiels terroristes. L'initiative est en tout cas suivie un peu partout en Europe, vous le disiez. La Turquie de son côté vient d'annoncer la réouverture d'un poste frontière pour permettre le retour des réfugiés syriens dans leur pays, tandis que le Haut Commissariat aux réfugiés espère que des retours volontaires, sûrs et durables pourront être mis en œuvre.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1, la Syrie doit être rendue aux Syriens. Et Bachar al-Assad doit être tenu comptable de ses actes, a déclaré le ministre démissionnaire des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit d'ailleurs en urgence ce matin pour nous. Et il n'y a toujours aucune confirmation que l'ex-président syrien ait trouvé refuge en Russie. Le Kremlin refuse de confirmer cette information. Pendant ce temps-là, à Damas, les islamistes du HTS ont donc pris le contrôle des institutions. Et le visage d'un nouvel homme fort s'affiche sur les écrans du monde entier, celui d'Abou Mohamed al-Joulani. C'est un ancien membre d'Al-Qaïda qui prend donc le pouvoir en Syrie. Wilfried de Villers pour Europe 1.
Oui, son groupe Hayat Tahrir al-Sham ou HTS est une ex-branche d'Al-Qaïda dans le pays. Dès 2011, au début de la révolution syrienne, Abou Mohamed al-Joulani fonde le groupe al-Nosra affilié à Daesh puis à Al-Qaïda qui deviendra HTS. Mais rapidement, al-Joulani entame sa transformation. Il rompt officiellement du moins ses liens avec Al-Qaïda en 2016 et abandonne son turban djihadiste au profit d'un uniforme militaire tout en modérant son discours. Dans son fief d'Idlib, à l'est de la Syrie, le groupe HTS met en place un gouvernement autonome avec ses ministères, ses services publics. Il soigne aussi ses relations avec les chrétiens et les différentes minorités de la région. Objectif, apparaître comme une alternative crédible au régime de Bachar al-Assad. C'est dans ce contexte que Mohamed al-Joulani a demandé à ses combattants de ne pas prendre d'assaut les bâtiments publics lors de leur offensive éclair des 10 derniers jours. Le chef du HTS affirme vouloir mettre en place une transition pacifique du pouvoir, mais le groupe reste accusé d'exactions par certains habitants d'Idlib et des défenseurs des droits humains, des exactions qui s'apparentent selon l'ONU à des crimes de guerre. Difficile donc aujourd'hui de dire si l'évolution d'al-Joulani et du HTS est sincère ou purement stratégique. Le groupe est en tout cas considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis et plusieurs pays européens.
Et j'ajoute que l'assassin de Samuel Paty était en lien avec cette organisation HTS qui a renversé le régime de Bachar al-Assad. Le 16 octobre 2020, jour de la décapitation du professeur, son assassin, Abdulhak Anzorov, a même envoyé une photo à Farouk Faizimtov. Il est propagandiste pour HTS, basé à Idlib, en Syrie, âgé de 24 ans à l'époque. 12 jours avant son passage à l'acte, le meurtrier de Samuel Paty écrivait sur Snapchat des propos élogieux à l'égard d'HTS. Je cite, « le meilleur groupe actuel à rejoindre pour mener le vrai djihad ». Les consultations se poursuivent à l'Élysée pour trouver un successeur à Michel Barnier. Emmanuel Macron propose une nouvelle méthode pour construire un nouveau gouvernement avec, la nuit prochaine pour nous, une réunion de toutes les forces politiques qui acceptent de discuter pour parler d'un programme pouvant déboucher sur un pacte de non-censure. Reçus ce matin, les communistes et les écologistes saluent cette proposition. Les partis de gauche qui confirment donc un nouveau tour de consultation, Arthur Delaborde.
L'idée d'Emmanuel Macron cette fois, c'est de mettre tous les partis membres de ce qu'il appelle l'arc républicain autour d'une même table. Objectif, tenter de se mettre d'accord sur un programme de gouvernement. La patronne des Verts, Marine Tondelier, salue un changement de ton de la part du chef de l'État.
Le président de la République a compris qu'il devait arrêter de n'en faire qu'à sa tête et de se précipiter dans des nominations qui conduiraient à des censures. Et donc c'est une première leçon intéressante de la journée. Et la deuxième leçon intéressante, c'est qu'il a répété à plusieurs reprises que, en gros, que la solution ne pourrait plus reposer ou pas reposer sur un accord avec le Rassemblement National.
pas de RN donc, même si Jordan Bardella demande que son parti soit reçu par Emmanuel Macron. Les Insoumis, eux non plus, ne semblent pas invités. Ils avaient refusé de participer aux dernières consultations. Avec un éventuel accord de non-censure négocié avec les autres composantes de la gauche, le chef de l'État espère isoler le parti de Jean-Luc Mélenchon et fracturer le nouveau Front populaire.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 pour succéder à Michel Barnier. Les noms de Catherine Vautrin, de Sébastien Lecornu et de François Bayrou sont souvent cités. En bref, Pierre Palmade, incarcéré à la prison de Bordeaux-Gradignan. Il a été placé dans un quartier d'isolement dédié aux prisonniers dangereux, mais aussi à ceux qui sont médiatisés. Il ne croisera donc aucun autre détenu et suivra un parcours de soins avant un éventuel aménagement de sa peine. Je rappelle que l'acteur de 56 ans a été condamné à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes, après le violent accident qu'il a provoqué alors qu'il avait consommé de la drogue. Il n'a pas fait appel. Et puis les visiteurs sont de retour à Notre-Dame de Paris. Après la cérémonie inaugurale et la consécration de l'hôtel hier, les touristes ont pu à leur tour redécouvrir l'édifice. Il y avait évidemment beaucoup de monde et d'attente, mais les visiteurs étaient tous conquis.
Très très bien, mais on ne regrette pas les 2 heures d'attente.
Un calme, une paix dans l'église.
Sérénité.
Il y avait des jeunes qui répétaient, là il y avait une chorale.
Il y avait une répétition de la maîtrise de Notre-Dame, extraordinaire.
Et on a croisé le diacre qui nous a dit quel plaisir de voir tous ces gens qui rentrent avec un sourire comme une banane.
C'est bien plus que lumineux, on a l'impression que les couleurs nous pénètrent tellement que cette variété de vitraux et ces peintures, ça prend au cœur, vraiment. C'est très profond.
15 millions de visiteurs sont attendus en 2025 à la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Radio Rythme Bleu, 6h47.
Et on termine avec l'actualité dans le Pacifique. Au Tonga, le Premier ministre Siaosi Sovaleni a démissionné de ses fonctions dans les instants qui ont suivi l'ouverture de la séance parlementaire censée débattre de la motion de censure qui avait été déposée à son encontre. Et c'est la correspondance ce matin de Jean-Pierre Zajac.
La dite motion accusait notamment Siaosi Sovaleni de corruption, de mauvaise gestion et de non-respect des promesses de développement du royaume. Plutôt que d'attendre qu'elle soit débattue en séance, Sovaleni a choisi de démissionner. « C'est la meilleure voie à suivre pour les Tonga », a-t-il dit peu après au micro d'une radio étrangère. « Il vaut mieux pour moi de partir », a-t-il expliqué. Son départ intervient 10 mois avant les prochaines élections générales. Dans l'immédiat, les élus vont proposer le nom d'un éventuel successeur à Sovaleni, nom qui sera ensuite soumis à l'approbation des 26 membres de l'Assemblée législative tongienne. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Le Premier ministre tongien qui était présent en Nouvelle-Calédonie fin octobre dernier à l'occasion de la mission du Forum des îles du Pacifique. Il accompagnait les premiers ministres des îles Cook, des îles Fidji et le ministre des Affaires étrangères des îles Salomon. Il est 6h48, vous écoutez Radio Rythme Bleu, la suite de l'actualité sur le territoire après la publicité. Ce sera juste après la pub avec notamment la hausse des prix du Betty Show.
RRB, 6h-8h, Nicolas Legrand.
Les opticiens mutualistes vous proposent des montures de marque classique ou tendance et des verres top qualité de Noverrier Zeiss ou Essilor. Chez les opticiens mutualistes, trouvez au juste prix les montures et les verres qui vous conviennent pour un vrai plaisir de voir. Les opticiens mutualistes à Nouméa, La Foy et Conné.
Et j'oubliais, chez Speed Marine, il y a Speed Pro, des solutions pour le BTP, l'industrie et le maritime. Produits sur mesure de levage et manutention. Sangles, palans, élingues, garde-corps et pour vos structures. Revêtement de sol, résine, peinture anti-corrosion. Pour chaque chantier, une solution Speed Pro. Contactez Speed Pro, service solution 75 21 81.
Toute l'info en 3 lettres. RRB.
La suite d'Info Matin avec le reste de l'actualité sur le territoire. On retrouve Nicolas Legrand.
Et je le disais, le prix des billets du Betty Show augmentera l'année prochaine. La Sudil a annoncé une révision de ses tarifs au 1er janvier 2025. Une décision prise en raison de l'effet cumulé de la hausse du prix des carburants, de la baisse d'activité depuis les émeutes et de la suspension des dotations de la part du gouvernement et de la province des îles. Écoutez Édouard Castin, le directeur général de la Sudil.
La réalité des problèmes financiers de la Calédonie nous rattrape et donc on n'a plus de soutien comme on pouvait avoir par le passé, ni de la province des îles, ni du gouvernement, pour des raisons budgétaires qui sont tout à fait compréhensibles. Nous, notre solution pour maintenir à la fois la survie de l'entreprise et celle du transport service public, c'est de s'appuyer un peu plus sur nos clients avec une augmentation tarifaire qu'on a calculée pour qu'elle soit la moins forte possible, mais qu'elle nous permette de nous passer de toute subvention. C'est autour d'une dizaine de pourcents d'augmentation. C'est quand même quelque chose qui est raisonnable pour les clients, mais qui va nous permettre de maintenir l'activité, même si les difficultés financières de la province et du gouvernement et de la Nouvelle-Calédonie persistent.
La grille tarifaire sera publiée d'ici la fin de l'année sur le site du Betticho, qui est toujours à quai en raison d'une avarie. Alors que la reprise des trajets maritimes vers les îles devait s'opérer aujourd'hui, les équipes sont toujours mobilisées pour des réparations, notamment pour remplacer le générateur qui est défectueux. Pour tout renseignement, les clients peuvent contacter le 260-100, le 260-100.
Radio Rythme Bleu, 6h50.
Deux années intenses qui arrivent à leur terme pour ces lycéens. Trois jeunes calédoniens sont admissibles à Sciences Po et passent donc leur oral jeudi prochain. Et le vice-recteur est venu leur rendre visite, c'était hier, Léana Colombo.
Et on pourrait même dire que leur préparation n'a pas été de tout repos. Parmi les six candidats calédoniens, ils sont trois à avoir réussi la première épreuve, une sélection sur dossier. Depuis leur classe de première, Dylan, Monique et Antonin essaient d'intégrer Sciences Po Paris. Ils entament une semaine de préparation intensive et pour les soutenir, effectivement, le vice-recteur Didier Vindatich est venu hier leur rendre visite au lycée d'Ikikewe. Il a tenu à les féliciter car, comme il explique, l'année a été particulièrement rude.
C'est une année spéciale et je pense que c'est à cette année spéciale qu'on peut attribuer le fait que nous n'avons que trois candidats admissibles. Nous en avions un petit peu plus l'année dernière. Donc oui, c'est une année particulière parce que nous, on finance des ateliers qui, tout au long de l'année, permettent aux professeurs de préparer les élèves à cet oral. Donc, possiblement, il y a quand même eu des lycées placés un peu en difficulté. L'année a été compliquée. L'essentiel pour nous, c'était de réussir les grands examens, bac, etc. Donc, ce dispositif a pu souffrir un peu. Mais on a, je pense que trois bons candidats qui vont pouvoir défendre vraiment leur chance aujourd'hui.
Des conditions qui ont évidemment perturbé la dernière année de préparation des trois lycéens. Antonin a 17 ans et souhaite intégrer Sciences Po Paris pour devenir magistrat.
Ça a été très compliqué parce que pendant deux mois, on n'a pas été au lycée. Suivre l'atelier, c'était compliqué. Du coup, pendant deux mois, on n'a rien fait. Mais on a vite rebondi. Dès la rentrée, on a repris l'atelier. On a vite travaillé sur Sciences Po. Même si ça a été compliqué pour les oraux et rendre les écrits, les rendre tôt, à temps. Et puis, il y a aussi le fait qu'on n'ait pas beaucoup, que beaucoup ont abandonné. Et ça a quand même joué. Ça nous a plus motivés à justement réussir pour pouvoir améliorer le pays et ne pas que ça recommence. Là, je suis un peu stressé, mais je pense que ça va bien se passer. Il suffit juste d'y aller tranquille et de... Pas tranquille, de préparer quand même, mais de se détendre le jour de l'oral et puis tout donner.
Antonin est élève au lycée d'Ikikewe, tout comme son camarade Dylan. Monique est quant à elle élève au lycée de Lifou. Tous les trois ont pu suivre une préparation au concours dans le cadre d'une convention entre leur lycée et l'école parisienne visant à soutenir les populations scolaires d'outre-mer.
Et depuis hier, l'enseignement catholique a un nouveau directeur. Il s'agit de Manuel Von Herschott. Il succède à Karen Cazot, restée 8 ans à la tête de l'institution. Sa nomination avait été annoncée depuis octobre et elle est donc effective depuis hier. Et puis c'est Tina de Boulou Paris qui est la gagnante du jeu du million en bon d'achat sur Radio Rythme Bleu. Le dernier tirage a eu lieu le 30 novembre dernier. Il s'agit d'un million de francs en bon d'achat dépensés où vous voulez, quand vous voulez. Écoutez la réaction de Tina lorsqu'elle a reçu son chèque d'un million.
Beaucoup de joie, vraiment beaucoup d'étonnement aussi parce que c'est la première fois que je gagne autant. Et je sais que voilà, je vais pouvoir faire plaisir à mon entourage. D'abord mes enfants, mon mari. Et ensuite, la famille proche et les collègues. En économisant, bien sûr, puisque ce sera des bons d'achat, bons cadeaux. C'est très bien de pouvoir avoir cette possibilité-là d'avoir plusieurs commerces où on peut les dépenser. Ça nous permet d'avoir le temps de le faire et aussi d'avoir le choix.
Et si vous voulez, vous aussi, eh bien, gagner 1 million en bons d'achat comme Tina, n'hésitez pas sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu, chaque SMS compte et vous pouvez donc participer en envoyant RRB au 4020, RRB au 4020. Et je rappelle qu'il y a chaque semaine 100 000 francs de bons d'achat à gagner, un seul numéro, RRB au 4020.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Et vous êtes de plus en plus nombreux à venir chaque jour à la radio. Vous vous mobilisez pour notre opération au cœur de Noël en faveur des plus démunis. Et nous vous en remercions très vivement d'ailleurs. Votre générosité pour gâter les enfants jusqu'à 16 ans est tout simplement incroyable. Il s'agit des familles qui sont pénalisées par les suites des émeutes. Écoutez, Nicole, elle est passée hier après-midi.
Je trouve que c'est bien. Moi, c'était pour la petite enfance, donc vous voyez ce que j'ai apporté. Je vais dire que là, je suis allée dans votre sens
En apportant à des jeunes enfants. Pour une fille, j'ai apporté un petit nécessaire avec une petite valise à roulettes où elle peut s'occuper de faire les shampoings, s'occuper des cheveux. Les filles commencent à être, elles sont coquettes très jeunes. Et puis pour un autre, pour un petit garçon, c'est un petit jeu de construction. Ça concerne des objets et des animaux. Si la sérénité pouvait revenir sur la Calédonie, on en serait tous très heureux. C'est pas toujours évident, mais on fait en sorte que, on essaie, en tout cas.
Un geste de partage, un don ou un cadeau et souvent aussi un petit message au cœur de Noël qui se poursuit avec vous et grâce à vous. Et rappelons que tous les cadeaux que vous apportez pour les enfants jusqu'à 16 ans seront distribués par nos associations partenaires aux familles en difficulté et notamment celles qui ont directement souffert des exactions. Vous pouvez donc passer tous les jours de 7h30 à 19h à Radio Rythme Bleu aux 4 rues de Sébastopol. Vous pouvez aussi déposer vos cadeaux à Petit Dôme, route de Lansvata. Et merci, merci évidemment pour votre générosité. Il est 6h56, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une dernière pause dans ce journal avant de voir l'essentiel de l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Chez Gémeaux, préparez vos fêtes de fin d'année en un clin d'œil. Des vêtements chics et décontractés pour toute la famille, des chaussures, des accessoires de mode et bien sûr, des idées cadeaux pour gâter tout ce que vous aimez sans vous tromper et au meilleur prix. Gémeaux, taillé pour les fêtes.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
Oh, oh, oh! C'est Noël chez Mazda. Nous avons le plaisir de vous accueillir au showroom de Magenta.
À Noël, offrez à votre famille le cadeau parfait avec Mazda. Alliez qualité et prix attractif pour des moments inoubliables ensemble. Faites de cette fête un moment spécial où chaque trajet devient une aventure en famille. Toute l'équipe Mazda vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
RRB, première radio d'information.
La suite d'Info Matin avec le sport, on retrouve Nicolas Legrand.
Avec l'actualité de la voile sur le Vendée Globe, Charlie Dalin poursuit sa route en tête. Il se trouve au sud de l'Australie. Massif Santé Prévoyance possède 160 000 nautiques d'avance sur Sébastien Simon et 330 000 nautiques sur Joam Richomme. Charlie Dalin qui commence déjà doucement à se projeter sur le Pacifique. Certainement un soulagement après la traversée de l'océan Indien qui a été particulièrement coriace pour les skippers. Et puis enfin un mot pour vous dire que la légende belge du cyclisme Eddy Merckx a été hospitalisé. Il a lourdement chuté lors d'une sortie à vélo entre amis selon plusieurs médias belges.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et pour que ce journal soit tout à fait complet, on termine avec la météo, Thierry.
Oui, ce matin, quelques formations nuageuses se développeront sur la chaîne et aux loyautés. Une ondée sera possible sur le nord et aux îles. Ailleurs, le temps sera bien ensoleillé. Sur l'ouest, on parle du vent à présent. Il sera tout d'abord faible, puis s'orientera au secteur sud, proche des Dineux. Ailleurs, il sera orienté est-sud-est autour des Dineux, voire 10 à 15 nœuds en fin de matinée. Ça sera sur le Grand Nouméa. Cet après-midi, le relief se chargera et des coups de tonnerre ne seront pas exclus sur la chaîne nord où de bonnes averses se déclencheront. Les nuages et quelques averses déborderont sur la pointe nord, l'extrême nord-est et le nord-ouest. Des averses concerneront également les fous et marées. L'alizé pour cet après-midi orienté est-sud-est autour de 10 à 15 nœuds. Il atteindra localement 15 à 20 nœuds sur le sud-ouest. Les températures maximales sont élevées au-dessus des normales, 30 à 32 degrés et localement 33 à 34 degrés. Et ce sera sur l'ouest.